VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriac au micro. Dans quelques instants, celle plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Recrudescence de la violence à Bujumbura, le chef d'état-major de l'armée burundaise a échappé de justesse à une embuscade au sud de la capitale alors qu'il se dirigeait à son travail. Au total, 7 personnes, dont des militaires de sa garde, y ont trouvé la mort, ainsi que des assaillants en tenue militaire. Écoutons le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Baratouza.
Le chef d'état-major général de la Force de défense nationale s'en est sorti intact et se trouve dans son bureau à ses occupations quotidiennes. Comme bilan, côté ennemi, il y a eu 2 tués et 1 qui a été blessé. Il y a une arme mitrailleuse Kalachnikov qui a été saisie, une arme RPG-7 lance-roquettes également qui a été récupérée et 3 armes Kalachnikov. Côté ami, il y a 3 militaires qui ont été tués et un civil qui travaille au ministère de la Sécurité publique également qui se trouvait à bord d'un bus Quester qui a été également touché par balle et est mort sur le champ. Il y a aussi des militaires qui ont été blessés, se trouvent à l'hôpital pour le moment. Ceux qui ont planifié cet attentat n'avaient pour objectif que de détruire la cohésion de la force de défense nationale, résultat d'une intégration réussie depuis 2005.
Le colonel Baratouza. Revenons sur la tentative d'assassinat et d'autres actes de violence enregistrés dans la capitale burundaise avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers de la capitale jusque vers 9h GMT. L'endroit était ceinturé par les forces de l'ordre qui ont refusé l'accès à des journalistes et à des membres du corps diplomatique. C'est sur la route qui mène vers Rumonge au sud du pays. Au même moment, un car transportant des officiers de la police qui utilisaient la même voie a été attaqué par des hommes en tenue militaire. Plusieurs personnes auraient été blessées. 4 militaires viennent d'être arrêtés pour enquête selon des sources militaires. Le général-major Prime Niyongabo est parmi les militaires qui ont empêché le putsch sanglant du 13 mai dernier qui était dirigé par le général Godefroy Niyombare, aujourd'hui en fuite. Depuis un mois, l'on assiste également à une résurgence de la violence depuis la réélection contestée de l'actuel chef de l'État. Mardi soir, une position militaire avait été attaquée par des hommes armés. 2 assaillants avaient été tués et 3 militaires blessés selon l'armée. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Par ailleurs, une commission burundaise composée de 4 magistrats accuse 25 associations de la campagne Halte au troisième mandat et 6 partis d'opposition de mener un mouvement insurrectionnel. Enquête sur les possibles viols commis par des militaires français en République centrafricaine. L'ONU a autorisé l'audition de son employé qui avait rédigé ce rapport sur ces allégations. C'est ce que rapporte une source judiciaire citée par l'AFP. Cette audition devra se dérouler en présence d'un représentant du secrétaire général Ban Ki-moon. Nouvelle attaque dans le nord-est du Nigeria. Cette fois-ci, il s'agit d'une explosion dans un camp de déplacés à Yola, dans l'état de l'Adamawa. On compte au moins 2 morts et plusieurs blessés, mais les bilans restent contradictoires. Présidentielle au Niger, l'ONU appelle à la tenue d'élections crédibles pour garantir la stabilité du pays. Il est impératif de soutenir le processus électoral afin de consolider les acquis dans le domaine de la paix à travers les élections apaisées, a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Inchambas. Il faut dire qu'à 6 mois du scrutin, le climat politique est tendu entre l'opposition et le régime. Les opposants accusent le président Issoufou, au pouvoir depuis 2011, de provoquer des scissions au sein de leur formation pour assurer sa réélection. Le Fonds monétaire international a tenu à réitérer son engagement à appuyer le Libéria, dont l'économie se remet toujours de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Camille Grosdidier.
On sait que le FMI a déjà fait une entorse à ses règles pour aider les 3 pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie d'Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Mais jeudi, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, s'est engagée à faire davantage. Au terme d'entretien à Monrovia avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf, Madame Lagarde a salué les efforts héroïques du Libéria face à la maladie. Le Libéria est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à se déclarer début septembre, libre du virus qui a fait environ 4 800 morts sur plus de 11 000 cas en 18 mois. Alors que la croissance plafonnait aux alentours des 8 % avant la crise, elle est en chute libre depuis. Le FMI a déjà fourni environ 130 millions de dollars en nouveaux financements et en allègement de la dette au Libéria, a rappelé Mme Lagarde. Vous disposez d'une feuille de route, vous avez un plan et nous voulons coopérer avec vous, a-t-elle dit lors d'un point de presse à Monrovia. En plus de l'épidémie d'Ebola, l'économie libérienne se ressent de la chute des prix des produits de base, du fait notamment du ralentissement de la croissance en Chine. Madame Lagarde a appelé le gouvernement libérien à accorder priorité à trois secteurs. Les infrastructures, la diversification de l'économie et les investissements dans le capital humain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
60 rebelles kurdes ont été tués la nuit dernière dans de nouveaux raids aériens en Irak. En signe d'apaisement, les autorités turques ont annoncé la levée d'un couvre-feu très controversé dans une ville turque en bordure de l'Irak. Claire Morin-Gibourg.
L'aviation turque a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une nouvelle série de frappes contre les camps des rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Selon des médias turcs, ces bombardements auraient tué au moins 60 combattants du PKK. L'armée turque avait lancé une précédente opération contre les mêmes cibles dans la nuit de lundi à mardi, en représailles à une attaque du PKK contre un convoi militaire qui avait tué 16 soldats à Daglika, dans l'extrême sud-est de la Turquie. Après ce lourd bilan, Ankara a annoncé la levée dès demain du couvre-feu à Cizre, un couvre-feu considéré comme un blocus par les Kurdes. Cette ville de 120 000 habitants à la frontière irakienne est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces de sécurité et les rebelles kurdes. Depuis la fin juillet, d'intenses combats ont repris entre l'armée et le PKK dans le sud-est de la Turquie.
Au Yémen, une attaque rebelle sur un marché bondé a fait au moins 20 morts, tous des civils. Par ailleurs, l'ONU attend toujours la réponse des rebelles chiites houthis quant à leur participation à des pourparlers de paix la semaine prochaine. Crise des migrants en Europe. Aucun accord n'est trouvé entre l'Allemagne et ses quatre voisins. L'Allemagne, rappelons-le, est prête à accueillir 40 000 migrants ce week-end. Eddie Sango.
Les pays de l'Est ont fait sourde oreille aux arguments du ministre allemand qui a parlé de plus grands défis de l'histoire de l'Union européenne et des besoins de solidarité. Le chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek, affirme que les États qui doivent accueillir ces migrants doivent pouvoir contrôler leur nombre. C'était lors d'une réunion avec ses homologues hongrois, polonais, slovaques et les luxembourgeois Jean Hasselborn, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne. Le ministre hongrois Péter Szijjártó a cherché à défendre la politique de son pays qui consiste à empêcher les passages des migrants vers d'autres pays européens. Son homologue slovaque Miroslav Lajkák a rejeté les accusations de manque de solidarité, estimant que le règlement de ces problèmes ne saurait être d'ordre administratif et que la solution ne devrait pas être imposée. Par ailleurs, la situation se normalise sur l'île grecque des Lesbos avec les transferts vers Athènes des quelques 22 500 migrants recensés cette semaine.
Les États-Unis commémorent aujourd'hui le 14e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Des minutes de silence à l'heure des attaques et des cérémonies du souvenir ont lieu à New York, au Pentagone et à Washington. Jacques Aristide.
À exactement 8h46, à l'heure à laquelle le premier avion de ligne détourné a percuté l'une des deux tours du World Trade Center new-yorkais, Barack Obama et son épouse Michelle se sont recueillis en silence ce vendredi dans les jardins de la Maison-Blanche. Puis le président américain devait se rendre dans l'après-midi sur la base de Fort Meade dans le Maryland pour y rencontrer des militaires et leurs familles. À New York, la commémoration a eu lieu à la 9/11 Memorial Plaza. Les noms des victimes, près de 3000, ont été lus par leurs familles. Recueillement ensuite au musée construit sur le site même des tours jumelles détruites par ces attentats. Au Pentagone, le secrétaire à la Défense, Ash Carter, a rendu hommage aux 184 personnes tuées lorsque l'un des quatre avions détournés par des terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé sur le bâtiment de la Défense américaine. Le 11 septembre 2001, une date à jamais gravée dans l'histoire des États-Unis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.